publicitaire, scénariste, parolier. Vous avez écrit des paroles de chansons.
Oui, pour Stéphane Eicher, par exemple. Oui. On est en train de... On va sortir un album avec 17 chansons suisse-allemandes au mois d'octobre.
Donc, vous voyez, une large palette. Et puis, il y a tout un pan d'activité que nous ne connaissons pas. Ce sont ces chroniques intitulées « Business Class » qui ne sont pas traduites ou très partiellement. Et on pourra aussi en parler. Mais depuis « Small World » en 1997... jusqu'à Elephant en 97-17, c'est une très belle carrière. Et Martin Souter nous a habitués à beaucoup de surprises, parce que chacun de ses livres est au fond assez différent. Mais on va commencer par Elephant. L'histoire d'un éléphant rose, c'est quand même assez particulier. Comment est née l'histoire de cet éléphant dans votre cerveau fertile ?
Il y a 10 ans que j'étais invité à une conférence internationale d'Alzheimer lors des 100 ans de la découverte de la maladie. Et un professeur, un scientifique, là à Tübingen, m'a montré son institut. Et en passant, il a dit... Aujourd'hui, ce ne serait pas un grand problème de faire un petit éléphant rose de manière génétique. Et cette image m'est plus sortie de la tête. Et chaque fois, quand j'ai commencé un roman, j'ai pensé peut-être ça, cette fois, c'est l'éléphant rose, mais je n'avais pas d'histoire. Et la dernière fois, j'ai dit, bon, alors maintenant il y a 10 ans que je me promène avec cette image, je vais essayer de faire le roman. C'est comme ça.
Donc vous avez vu un éléphant rose, donc fluorescent, de 30 cm de haut. C'était ça votre point de départ?
Oui, le fluorescent, j'ai inventé, c'est encore un nouveau aspect, parce que maintenant... Il y a beaucoup d'animaux fluorescents dans la science. J'ai pensé, si les petits roses et fluorescents, c'est encore plus joli. Et j'avais cette image, et j'avais bientôt aussi l'image de... je pensais que... Celui qui découvert cet animal, il doit être un alcoolique. Ça m'amusait, cette idée. Et il doit penser, alors il est grand temps que j'arrête à boire. Et, c'était seulement ça que je savais au début.
Alors, en lisant les premières pages de votre roman, je me suis demandé si en allemand, on dit aussi « voir des éléphants roses ».
Non, en allemand, on voit des souris blancs.
C'est ce qui me semblait.
Oui. Mais les Anglais, ils disent éléphant rose. Mais oui, j'ai trouvé que c'était un bon début. Et pour ça, ce roman joue dans tellement différentes...
des domaines, des registres différents.
Oui, Zeitebene. Qu'est-ce que c'est une Zeitebene?
Vous parlez du temps?
Oui.
Ah oui, une temporalité différente.
Oui, oui, oui. Parce que ça devait commencer avec cet éléphant qui devait avoir déjà presque un an. Et comme il faut 24 mois pour d'être enceinte, qu'est-ce que Trächtigkeit, oui. Il fallait reculer beaucoup de mois et des années. Et c'est pour ça que ce roman joue dans le présent, dans le passé et dans le futur.
Alors ça commence le 12 juin 2016, ça se termine le 16 décembre 2018, mais on remonte aussi à 2015 et avant, et chaque chapitre est situé dans le temps. Donc on a effectivement une temporalité glissante qui est assez exigeante pour le lecteur, il faut faire attention. vous voulez que votre lecteur soit attentif.
Oui. Oui, c'est pas obligatoire de vraiment savoir toujours où on se trouve dans le temps, mais peut-être ça aide un peu. Oui.
Alors, moi, j'ai trouvé que c'était obligatoire. Parce quelquefois, j'avais perdu de vue la temporalité et j'ai dû revenir en arrière pour me dire, ah oui, c'était tel jour, c'est le même jour. Et effectivement, c'est un exercice de virtuosité sur la temporalité qui est très séduisant.
Oui, oui, j'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Non.
J'ai encore pas eu de critiques qui disent que je ne comprends pas ces changements de temps. Oui, mais pour l'auteur, surtout, c'était compliqué.
Pour vous, c'est compliqué, pas pour le lecteur.
Oui. Et la rédactrice aussi, elle a dit, alors la prochaine fois, tu ne me fais pas ça, parce que...
La traductrice
L'éditeur
l'éditrice.
L'éditrice, oui.
Ah, parce que vous avez une éditrice
qui
lit intervient.
Ça et qui doit contrôler s'il n'y a pas de problème de temps.
Ah, que vous n'ayez pas fait
il y en avait.
Il y avait des inattentions, des moments où vous êtes un peu trompé.
Oui, parce que. Des fois, il y avait des choses qui se passaient qui ne pouvaient pas encore se passer parce que...
Ah, alors, moi je l'ai lu attentivement parce que je dois vous dire, j'étais un peu inquiet de venir aujourd'hui parce que Martin Souter m'impressionne. Et j'ai lu très attentivement et je n'ai vu aucune erreur.
Non, il y en a plus, non. Mais là, il y avait, des fois j'ai eu des téléphones et j'ai dit, mais... Tu te rends compte, ça c'est pas possible parce que ça c'était là et ça va être là. Mais à la fin, on a réussi de faire.
Vous avez bien démêlé les chevaux, oui.
Oui, je pense.
Alors, reprenons. Vous avez un éléphant rose dans la tête. Mm-hmm. Vous avez besoin d'un alcoolique pour que ce soit drôle.
Oui.
Et l'alcoolique, où est-ce que vous allez le chercher ?
Bon, il fallait que l'alcoolique trouve cet éléphant dans une cachette, parce que quelqu'un voulait le cacher quelque part, parce qu'il était poursuivi, on va savoir plus tard pourquoi. Et alors, ça devait être un alcoolique qui trouve un éléphant dans une cave... C'était logique que c'était un sans-abri.
C'est une caverne. C'est une caverne au bord de la rivière. Mm-hmm. Ce n'est pas une cave d'immeuble, hein, c'est une caverne.
Mm-hmm.
Et alors, il faut évidemment amener un sans-abri, un alcoolique dans une caverne. Et pour ça, il faut qu'il soit sans-abri.
Oui.
Donc, vous êtes intéressé au monde des sans-abri. Parce qu'à la fin, il y a un remerciement très touchant. Par rapport à ce pan de votre livre.
Oui, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont fait des tours à travers de leur monde. Ils m'ont montré comment ils vivent. Et je cherche pas des thèmes quand je cherche un livre. Je cherche une histoire. Mais l'histoire cherche ses thèmes. Quand c'est un éléphant rose, si je ne veux pas écrire une histoire d'enfant, je ne peux pas éviter la manipulation génétique. Alors c'est l'histoire qui trouve ce thème-là. Et si je veux qu'un alcoolique... trouve ça dans une caverne, je tombe sur les sans-abri, alors je dois étudier ça. C'est toujours les histoires qui me forcent à faire des recherches.
Alors on va voir quelles recherches vous avez faites, parce qu'elles sont variées. Mais vous avez dit une fois, je connais toujours la fin avant de commencer une histoire. Il faut savoir quel est le point d'arrivée pour tirer une histoire à soi. Et oui. C'était le cas aussi. Donc vous aviez le point de départ, l'éléphant rose, un éléphant nain de 30 cm, fluorescent, et vous aviez la faim.
Oui, et je savais aussi un peu ce qui va se passer au chemin. C'est toujours quand j'écris un livre, je dois pouvoir me mettre aussi au futur. Et parce qu'une histoire, on peut la pousser et on peut la tirer.
Et vous la tirez.
Je fais les deux choses. Mais si on pousse seulement, sans savoir où elle va, ça peut arriver, ça m'est arrivé déjà une fois, qu'on se perd, ou l'histoire se perd. Alors pour qu'une histoire n'a pas l'air construite, il faut bien la construire. C'est un paradoxe, mais des fois on lit des histoires et on remarque tout, et il y a beaucoup trop de construction, et ça se passe toujours quand l'auteur se trouve quelque part et sait pas comment ça va continuer, alors il doit commencer à construire. Il vaut mieux savoir où on veut terminer pour vraiment tirer et pousser l'histoire et les lecteurs.
Donc vous êtes un architecte qui cache son talent.
Ma femme est architecte. elle ne le cache pas, le talent.
Vous ne voulez pas qu'on voit la fabrication.
Oui, il ne faut pas que ça soit...
Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent...
Comme une belle maison, on ne voit pas vraiment comment elle est construite.
Il y a beaucoup d'auteurs qui disent « Mon personnage m'a emmené là où il voulait » et on est toujours un peu surpris.
Ils ont la tendance de faire ça, les personnages, alors il faut vraiment les contrôler un peu. Et j'arrive pas toujours à les contrôler non plus.
Dans ce livre, vous avez éprouvé de la difficulté à contrôler un de ces personnages?
Oui, c'était pas vraiment des difficultés, mais bien sûr, ils m'ont surpris.
Hein.
Oui, des fois, parce que je connais pas tous les détails de l'histoire. Je sais où je vais passer et où je vais terminer l'histoire, mais les détails, c'est tous les jours qu'il me surprend.
Alors, il faut qu'on soit prudent parce que la plupart des gens n'ont pas encore lu le livre.
Oui, on va pas parler de la fin. Non.
Comme ils vont venir, ils vont l'acheter, ils vont venir vous faire dédicacer tout à l'heure sous la tente des dédicaces. Il ne faut pas qu'ils connaissent trop de détails. Parce que
c'est... Non.
Alors, c'est frustrant pour moi parce que j'aimerais bien savoir quel est le personnage qui vous a demandé un effort pour le maîtriser.
C'était l'éléphant. Ah. C'était l'éléphant. Il avait tendance de devenir trop mignon. Et je voulais pas que ça soit mignon, mais comme c'est un animal tellement mignon, c'était difficile. Je devais me dire que cet éléphant, il sait pas qu'il est un éléphant rose. Il a jamais vu d'autres éléphants, même pas sa mère. Il se sentait, il se comportait comme un vrai éléphant. C'était un animal fier et c'était un animal fort pas un grand problème, mais c'était, des fois j'ai dû corriger un peu pour que cet éléphant rose reçoit le respect que je lui dois.
Alors, ça, c'est très clair, et vous le montrez très bien. Il y a un moment donné où, effectivement, il est très mignon, et puis après, il cesse d'être mignon, et il est tout à fait respectable, et il sait se faire respecter. Et ça, c'est... Donc ça vous a demandé un peu de travail.
Oui, parce qu'au début, je ne me suis pas rendu compte de ce problème. Et... Oui, alors j'ai dû corriger des choses, j'ai dû, j'ai dû ajouter des choses. Oui, heureusement que je l'ai remarqué.
Pour créer ce personnage, puisque c'est vraiment un personnage à part entière, vous avez dû faire une enquête scientifique sur ce qui est possible et pas possible. Oui. Il y a un endroit où vous donnez des détails sur quelque chose dont le nom m'échappe toujours, qui est CRISPR-Cas, quelque chose comme ça.
Oui, c'est une...
Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est une nouvelle technique qui pratiquement a été découvert en même temps que j'avais écrit le roman. Et c'est une technique relativement simple de manipulation génétique. C'est une technique, c'est comme toute la manipulation génétique. C'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose de merveilleux. On va pouvoir, avec ces techniques, on va pouvoir faire des humains de design. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur, oui. Et en même temps, on va pouvoir faire... des humains qui vont plus recevoir des maladies ou qui vont plus avoir de cancer, qui vont plus avoir beaucoup de maladies, et on va pouvoir fabriquer des organes. Alors pour toute la médecine de transplantation, il faut plus attendre que quelqu'un meure. Alors, c'est une chose du futur, mais pas du futur très loin. Ce sont des choses qui se font déjà. Alors, c'est quelque chose de très... Je suis, comme tout le monde, très divisé sur cet aspect.
Nous étions hier ici avec Jean-Louis Servan-Schreiber qui a écrit un livre intitulé « L'humanité, apocalypse ou apothéose ». Puisque tout ce qui est possible a toujours été tenté, est-ce qu'on va vers une apothéose de l'humain grâce à ces techniques et à tout ce qu'on peut ajouter à l'homme, ou est-ce que ce sera au fond la fin de l'homme parce que toutes les machines et la technologie vont nous rendre inhumains ou nous dépasser. Alors, vous êtes un optimiste lucide ou un pessimiste ?
Non, je suis d'un optimisme que je comprends des fois pas. Mais c'est chaque matin quand je me réveille, je trouve tout va bien. Tout. Et oui, le soir, des fois. Ça se termine un peu, ce sentiment, mais...
Heureusement qu'il est 11 heures, ça va.
Oui. Alors, oui, vous parlez un optimiste. Non, optimiste. Hier soir, j'étais là aussi très optimistique, avec des raclettes et du bon vin.
Ça s'est bien passé. Alors, pour revenir à ces manipulations génétiques, à ces possibilités technologiques de transformer l'humain, vous avez choisi ce thème pour dire quelque chose de plus ou juste pour nous raconter une belle histoire ?
Normalement, c'est tout ce que je veux, raconter une belle histoire. Mais comme je trouve une histoire est plus belle quand elle est racontée d'une manière très réalistique, ça devient des fois critique. Si on décrit le monde comme il est, c'est automatiquement critique. Alors, c'est jamais l'intention de... J'écris pas des livres de thèse, je veux pas enseigner des choses ce que je veux faire, c'est de mes lecteurs, pour, pendant quelques heures ou quelques jours, des membres de la société inutile, qu'il oublie tout le reste.
Il oublie tout le reste, mais en même temps, vous touchez à des thèmes qui nous ramènent aux menaces de la vie actuelle. Et alors, il y a le côté, l'aspect scientifique, il y a d'autres aspects, il y a notamment, on a parlé, les SDF. Vous êtes immergé apparemment suffisamment pour... Vous n'avez pas l'air d'un SDF, disons. Vous êtes extrêmement chic et plutôt conservateur dans votre habillement. Et vous nous décrivez quelqu'un qui vous ressemblait au départ et qui change de vie et devient un SDF, un sans-abri. On peut quand même en parler un petit peu, même sans dévoiler ce qui va se passer.
Oui.
Ce personnage de Schorr, vous le connaissez?
Oui, oui.
Vous le connaissez? Vous l'avez rencontré?
Maintenant, j'en connais qui sont un peu pareils. Ça, c'est déjà un problème. Comme il y a tellement de gens qui n'ont pas lu le livre, on a déjà relevé un secret. Le choc, c'est un personnage avec un secret. À Zurich, comme dans beaucoup d'autres villes en Suisse et je pense aussi en Allemagne, il y a des organisations qui aident aux sans-abri et aux gens sans travail à survivre. Alors ils font un journal, un mensuel qui est vendu par des sans-abri, et eux ils gardent la moitié du prix pour eux, pour pouvoir survivre. Et la même organisation fait aussi des tours dans la ville de Zurich pour montrer à nous bourgeois comment eux ils doivent vivre, et j'ai fait un de ces tours et c'était très intéressant, et mes deux guides qui étaient les deux des sans-abri, je les ai contactés après et je suis toujours en contact avec eux, et ils m'ont raconté beaucoup de choses. Ils ont aussi lu le manuscrit pour voir si c'est plus ou moins réalistique. Un m'a dit la première fois que j'allais sur un tour un peu privé avec lui, il m'a dit « Mais tu ne me viens pas en costume, hein, s'il te plaît. » Alors, je suis venu sans cravate. Et ça allait.
Un costume trois pièces sans cravate?
Non, c'était un deux pièces.
Mais donc, ces personnages, vous les avez rencontrés. Ils existent. Ils
oui,
pourraient exister.
Oui, 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 oui.
Parce que effectivement, quand vous nous plongez dans cet univers, on a l'impression que vous avez fait vous-même une immersion dans ces endroits pour pouvoir restituer l'atmosphère des échanges et les réflexions qui passent par la tête de vos personnages. Vous avez un côté journaliste,
c'est,
au bon sens du
oui,
terme.
Oui, j'ai aussi travaillé comme journaliste. Hier, j'étais surpris par la visite de Anne-Marie Grobet, une grande photographe, et avec elle, j'avais fait, il y a 40 ans, un reportage sur les nez noirs, les moutons au Valais.
Oui.
C'était une très belle rencontre. Oui, j'ai travaillé comme journaliste. Mais, bien sûr, un écrivain, il doit travailler avec un mélange d'informations et d'imagination. Ça, c'est intéressant de voir si son imagination est prête de la réalité, et oui, dans ce cas, je pense que ça fonctionnait.
pense que ceux qui ont lu le livre seront d'accord. Un autre milieu, puisque c'est un éléphant, le personnage principal est un éléphant, donc il est évident qu'il doit y avoir des vétérinaires.
Oui, oui, j'ai passé pas mal de temps dans des jardins zoologiques. Et il y a le grand professeur Hildebrandt à Berlin, qui est le grand spécialiste de l'insémination artificielle d'éléphants, de rhinocéros et d'autres animaux. Il m'a beaucoup aidé, il m'a montré beaucoup de choses. Il a aussi lu toutes les parties techniques qu'il y a pour voir qu'il n'y a pas de faute. Ça, je trouve toujours, par respect envers les lecteurs, que tout qui peut être vrai soit correct.
Vous nous emmenez aussi dans un endroit plus exotique, où il y a un personnage assez particulier, on ne peut pas en dire trop, mais qui doit apporter le matériel génétique, disons. Ce personnage, vous l'avez rencontré ?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais j'étais en Birmanie pour... C'était un voyage de première classe payé par la maison Christian Bourgois, n'est-ce pas ?
La maison ?
Non, c'était une blague.
Je vous ai mal entendu.
Pour Dominique Bourgois. Non, j'ai fait des vacances là. C'est pas ça. C'est pas que les maisons d'édition
me payent. Vous avez dit Christian Bourgois ?
Oui.
Ah oui, d'accord. Oui. Alors, si les éditeurs payaient des voyages aux auteurs, ça, ce serait une nouveauté intéressante.
Oui, ça, oui, aussi, oui. Alors, peut-être, ça va... Non, je pense pas. Le train est dans l'autre direction, plutôt.
Hélas.
Non, j'ai...
Vous êtes allé en Birmanie.
Je voyage beaucoup avec ma famille, et là, bien sûr, j'utilise des fois des choses, des images que j'ai vues, des atmosphères que j'ai connues. Ça.
Alors celles-ci, on les rencontre à la fin, mais ce serait criminel d'en parler.
Ah oui, ça serait...
Voilà. Mais j'aimerais revenir au vétérinaire, parce que vous avez parlé du professeur qui travaille, qui est un grand scientifique, qui travaille dans un jardin zoologique. Et puis, il y a le vétérinaire de campagne.
Oui.
Il y en a même deux. Vous avez rencontré des gens comme ça ? Parce que vous parlez de leur motivation. Vous avez l'air vraiment de connaître les vétérinaires de l'intérieur, si je puis dire.
Non, ça, c'est imagination. Non, je n'ai pas... Les vétérinaires, c'était les seuls vétérinaires que j'ai connus. Oui, le spécialiste... d'éléphants du jardin zoologique de Zurich, mais pas des vétérinaires comme le docteur Reber qui était vétérinaire de campagne. Non, ça j'ai pas.
Vous n'avez pas d'amis qui ressemblent à Reber ?
Non, mes personnages sont toujours des cocktails de beaucoup de gens que j'ai vus, que je connais, que j'aime, que je déteste.
Ah, il y en a que vous détestez, oui.
Oui. Normalement, les personnages, je trouve toujours qu'on trouve tous les personnages en soi-même. Alors, moi, je n'essaie pas de me mettre dans la peau de quelqu'un, mais j'essaie de trouver le vétérinaire, le manager, l'assassin. Et je pense qu'on a toutes ces qualités en soi-même et il faut seulement faire attention que... oui, on peut les faire plus grands, Mais si on fait un méchant trop grand, il faut aussi essayer de le refaire plus petit après pour la vie normale de la famille, parce que ça marche pas si on se promène dans la maison comme un assassin.
Alors, j'ai lu dans une critique, d'ailleurs élogieuse de votre livre, qui disait c'est un conte. Les valeurs sont binaires, il y a les bons et les méchants. Les bons sont très bons et les méchants sont très méchants.
Oui.
Et pourtant, on marche, ça fonctionne et on est emporté avec plaisir hors de la réalité. Et puis moi, j'ai ressenti tout à fait le contraire, c'est qu'en même temps, on est dans une réalité parfaitement angoissante et qui annonce des lendemains probablement assez, assez sombres. Alors, vous avez voulu faire un conte avec des personnages symboliques très forts, ou c'est né tout seul?
Non, je voulais faire je voulais avoir une dramaturgie, c'est un mot français, oui?
Tout à fait.
Une dramaturgie de conte, mais de conte réalistique. Alors, bien sûr... C'est vrai, il y a les mauvais, il y a les bons, et tout s'arrange plus ou moins comme dans les contes, mais je ne voulais pas que ça soit trop fantastique. Je voulais comme lecteur, on se demande est-ce que c'est fantaisie ou est-ce que c'est réalité?
Alors, vous avez cette précision réaliste dans tous les détails, donc tout est vrai, tout est juste et tout est vérifié par des spécialistes, que ce soit les SDF qui vous disent c'est bien comme ça que ça se passe, ou le médecin, le vétérinaire. Et puis en même temps, toute l'histoire, toute la trajectoire est fantastique.
Oui.
Donc c'est pas une fantaisie mais réaliste.
Oui, oui, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire toujours.
Dans chacun de vos romans?
Oui.
C'est toujours c'est toujours fantastique.
C'est la fiction est toujours fantastique, mais pour qu'elle soit croyable, elle doit partir d'un fond réalistique. Je pense un romancier, c'est toujours un menteur. Et les mensonges, pour les faire croyables, il faut les envelopper dans une dizaine de vérités. Comme ça, on peut les vendre mieux, croyez à un vieux menteur.
Alors, vous êtes un vieux menteur très fort, parce qu'effectivement, vos mensonges, il y a des moments où... c'est vrai qu'un éléphant rose fluorescent de 30 cm, c'est difficile à croire, mais vous parvenez à le rendre crédible justement par ce luxe de détails et de choses vérifiées. Alors... Mmh. On va parler d'autre chose parce que sans ça, je vais commencer à révéler des détails qui vont pas faire plaisir aux futurs lecteurs. Vous arrivez à amener des thèmes assez pointus. Juste un passage. Il y a un dialogue entre une vétérinaire et un SDF à propos de l'éléphant, et ils parlent d'autres choses. Ils parlent de choses plus importantes pour eux. Le SDF demande... Oui, la vétérinaire dit « Maintenant, tu vas penser que je suis folle. » Et il lui répond « Pas folle, peut-être un peu excentrique. Pourquoi as-tu fait ça ? Par respect pour les animaux, par respect pour la vie. Par respect pour la vie, quelle que soit la manière dont elle est née, compléta Valérie, c'est la vétérinaire. Tu veux dire... par création ou par évolution. Donc là, on est en plein en pleine foi et conviction philosophique. Il m'arrive de penser...
On ne peut pas l'éviter dans cette histoire. C'est inévitable qu'on arrive à ce point. Ouais.
Juste la phrase suivante. Il m'arrive de penser que c'est la même chose, donc la création et l'évolution. La seule différence, c'est le laps de temps. Cette journée ou quelques millions d'années, le temps, c'est relatif. Tout est question de perspective. Quelle impression un éphémère a-t-il de la durée de sa vie ? Donc, est-ce que là, on arrive dans les convictions personnelles de Martin Suter ?
Oui, on cherche toujours l'autobiographique dans les romans. C'est pas vraiment une conviction, mais c'est une question que je me pose. Bien sûr, quand on arrive à mon âge, on commence encore plus sérieusement qu'avant à se demander ces choses-là. Et là, Valérie, elle a le point de vue que tout ça ne peut pas être un hasard. Elle croit pas au hasard. Alors, je pense, dans le même dialogue, elle dit que elle croit qu'il doit avoir un plan, que ça peut pas être un hasard. Ouais.
Mais il y a une volonté, un projet derrière tout cela. Je ne crois pas au hasard.
Voilà, oui, c'était mieux dit que... Merci, Olivier.
Olivier, c'est le traducteur, Olivier Manoni, oui. C'est votre traducteur fidèle.
Oui, oui, c'est vrai. Oui.
Alors, ça me donne la transition pour parler plus généralement de votre œuvre, puisqu'il est déjà, il ne reste plus que 20 minutes avant de donner la parole au public. Votre traducteur, vous suivez la traduction, vous regardez comment c'est fait, il vous pose des questions ?
Des fois, il pose des questions quand il n'est pas sûr si c'est vrai ou si c'est un mensonge. Dans la face cachée de la Lune, il y avait beaucoup de champignons. Il y avait un champignon qui était la raison de toute la... Tout le drame, et il a cherché pendant des semaines le nom français de ce champignon, et finalement il m'a appelé, il a demandé, alors ça existe ou ça n'existe pas, et j'ai dû dire non, celui-là c'est le seul qui n'existe pas. Oui.
Vous l'avez laissé chercher longtemps comme ça?
Bon, il aurait pu me demander avant, mais il...
On parlait...
Alors là, il a eu presque pas de questions. Il aime traduire ça sans devoir me demander pour m'impressionner. Oui. Ah. Et il a bien réussi.
C'est vrai que vous êtes quelqu'un qu'on aimerait bien impressionner. Oui. Alors, on parlait l'autre jour avec un traducteur qui a dit que la difficulté pour le traducteur, c'est qu'il doit tout comprendre. Le lecteur, bon, s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, c'est peut-être pas trop grave parfois.
Oui.
Mais le traducteur doit être absolument sûr d'avoir tout compris. Donc là, il n'y avait pratiquement pas d'incertitude.
Non, il y avait quelques questions, mais c'était très peu. Mon premier roman, Small World, a été traduit par un autre traducteur. Et là, il y avait beaucoup de choses qui étaient... mal compris.
Donc il faut refaire une traduction.
Non, c'est pas grave. C'est une belle traduction, mais il y avait des images qu'il a pas compris. Et pour ce roman, j'ai réussi un prix en France et on a fait une célébration. Et là, j'ai vu pour la première fois ce traducteur. Et après quelques verres, j'ai osé lui demander, mais pourquoi, quand vous n'étiez pas sûr, là et là et là, pourquoi m'avez-vous pas appelé ? Et il a dit, Vous étiez le premier auteur vivant que je traduisais.
Les autres ne pouvaient pas se défendre.
Il n'avait pas l'habitude de prendre le téléphone.
Vous avez parlé du côté autobiographique qu'il y a forcément dans un roman, et vous avez une série qui s'appelle Almen.
Oui.
Alors, Almen, c'est vous ?
Non. C'est pas tout à fait moi, mais les gens me demandent. Oui, il porte aussi des costumes de trois pièces, mais c'est plutôt Almen. C'est un prétendeur. On dit un Hochstapler.
C'est pas. Hochstapler, c'est un. Quelqu'un peut m'aider dans la salle? Hochstapler. Un prétentieux? Imposteur.
Ah bon, oui. Alors, il y a un personnage dans un roman qui s'appelle le dernier des Weinfeld. Et là, le personnage est un peu comme Almen aimerait être. C'est un vrai monsieur, Weinfeld. Et Almen, il prétend d'être ça. Pour moi, c'était un personnage sympathique. J'aimais beaucoup Weinfeld et j'ai cherché un personnage. Je savais quand je commençais à écrire une série de polars, le personnage principal doit être quelqu'un avec lequel je peux m'imaginer de passer beaucoup de temps. Alors c'est comme ça que ce pseudo Weinfeld est né.
Vous l'emmèneriez en vacances avec vous?
Oui, on aurait peut-être aimé les mêmes hôtels et oui, et les mêmes boissons.
Alors, les boissons, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'avais encore une question par rapport un peu plus littéraire. Chacun de vos romans, chacune de vos œuvres, disiez-vous, est un hommage à un genre.
Oui, plus ou moins chacun, oui.
Alors, Éléphant, c'est un hommage à quel genre ?
La science fiction. Ma manière de science fiction.
Alors, c'est de la science fiction très réaliste, très proche de nous.
Oui, c'est toujours la bonne science fiction, c'est très réaliste.
Quelquefois, elle nous emmène dans des endroits improbables, inaccessibles. Et oui. Ici, non, on est vraiment chez nous.
Oui. Oui, j'ai toujours un peu ma manière de faire ça. J'ai écrit deux romans de machines à remonter le temps. Le premier, c'était Small World, oui. Où la maladie d'Alzheimer est une machine à remonter le temps. Et le temps, beaucoup d'années plus tard, c'était de nouveau un voyage dans le temps.
Le temps est sorti en 2013 en français.
Oui.
Alors, entre ces romans, quand on regarde la liste de vos publications, on voit qu'en Allemagne, en Suisse allemande, en Allemagne, il y en a plus. Donc, il y a une partie qui n'est pas traduite. Et j'étais intrigué par ce fait. Donc, toute la série Business Class n'a pas d'écho en France. Et pourtant, c'est quelque chose qui marche bien en Allemagne.
Oui, ça marche très bien en Allemagne.
Qu'est-ce que c'est, Business Class ?
C'est des paradis, des parodies sur les hommes d'affaires. J'ai écrit ça pendant un peu plus que 15 ans, toutes les semaines.
Donc alors, des chroniques. Destinées à une publication, à un périodique.
Oui. Et c'était... Oui, j'ai écrit peut-être 750 de ces chroniques. Et oui, en Allemagne, ça sort toujours. C'est l'année passée, non, je pense. Même cette année, on a fait une autre collection. Et en France, chez Bourgois, il y a un tout petit livre avec quelques traductions.
Qui n'a pas eu d'écho, au fond.
Oui, j'ai lu quelques critiques très, très sympathiques.
Mais pas assez pour que l'éditeur en fasse un grand volume.
Là, ça, c'est pas l'auteur qui décide ça, mais oui. Vous pouvez, je pense que l'éditeur est présent aujourd'hui, alors vous pouvez peut-être...
Qu'il se lève et qu'il s'explique. Est-ce que nous aurons un jour les chroniques business class en grand volume en France? Ils vont en parler. Parce qu'au fond, là, vous êtes, quand vous écrivez pour Business Class, c'est Martin Souter.
Oui.
C'est je.
Ah non, non, non. Ah, non, c'est l'auteur est Martin Souter. Non, non, c'est aussi, c'est un mélange. Comme j'ai travaillé pendant, je sais pas, une douzaine d'années dans la publicité, j'avais beaucoup d'impressions de ce monde et quand j'ai arrêté ça, c'était mon capital de pouvoir m'amuser et faire des parodies. C'est un mot français, parodie.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
De ce monde, et c'était très lu et c'était surtout. Dans la satire, on a l'avantage que ceux qu'on décrit ne le remarquent pas. Alors, c'était surtout des managers qui étaient mes lecteurs.
Les managers vous lisent,
oui.
Se rendent pas compte que vous vous moquez d'eux.
Non, ils pensent toujours que c'est les autres.
C'est le voisin. Et tout le monde est content.
Tout le monde est content, oui, oui. Je suis toujours invité dans des assemblées de businessmen normalement sans épouse qui vient écouter mes histoires de business class. Maintenant, je ne les fais plus ou seulement pour beaucoup d'argent.
Parce que vous avez besoin d'argent ?
On a toujours besoin d'argent. Moi, ce que j'aime à l'argent, c'est le dépenser. Et pas de le... Je suis pas actionnaire. Mais j'avoue que j'aime les voyages, les belles hôtels.
Et les bonnes boissons.
Les bombes, ben oui, et
c'est
les
laquelle votre boisson favorite, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Votre boisson.
Mon boisson. Quand je suis en train d'écrire un roman, je travaille du matin avec une pause à midi jusqu'au soir, et l'idée, comme j'ai écrit la plupart de mes romans au Guatemala, j'ai toujours dit qu'au coucher de soleil, je vais prendre un apéritif avec ma femme. Et le coucher de soleil au Guatemala, c'est toujours 6 heures du soir. Alors ça, mais à Ibiza, c'était des fois à 11 heures. Alors là, des fois... Et l'apéritif à 7 heures, c'est toujours ou un cava ou un verre de champagne. C'est une boisson très qui me rend toujours un peu, qui me rend un peu l'optimisme du matin.
Vous retrouvez votre joyeuse humeur. Et c'est ce que vous auriez voulu partager avec votre aventurier birman, en Birmanie. Vous avez rencontré ce personnage que vous avez inventé et avec qui vous auriez peut-être pu partager des hôtels et des boissons.
Oui, en Birmanie, c'était ma femme. et notre fille, chez notre fille, pas les boissons, mais les hôtels, oui.
Alors, vous parlez de votre famille, vous l'avez transplantée au Guatemala et à Ibiza pendant des années.
Oui, on a passé 22 ans comme Suisse étranger. Et on est revenu, c'est la troisième année de retour en Suisse.
Vous êtes à Zurich ?
À Zurich, oui. C'était un peu, oui, surtout à cause de notre fille.
Quel âge a-t-elle ?
Elle a 11 ans maintenant seulement. Alors, c'est les écoles au Guatemala. Les écoles au Guatemala, c'est pas vraiment ce qu'on voulait comme éducation pour elle. Et à Ibiza, elle était dans une école anglaise. Et moi, j'ai fait un bac anglais. Le système anglais a le problème qu'on doit se décider très jeune si on veut être.
Il faut choisir sa voie, son orientation.
Artistique, scientifique, tout ça. Alors, à la fin, c'était Zurich.
Et comment est-ce que vous supportez la vie à Zurich après 22 ans dans un environnement hispanophone ?
Assez bien, je suis surpris. Il faut dire que dans tous ces 22 ans, on a toujours passé quelques semaines en Suisse. Et oui, nos familles sont en Suisse. Mon éditeur allemand est en Suisse. Alors, c'était pas vraiment un choc de culture de revenir à Zurich. Et non, on se sent bien.
Et pendant toutes ces années où vous avez vécu dans un environnement hispanophone, vous avez continué d'écrire en allemand.
Oui.
Est-ce que vous êtes tenté d'écrire dans d'autres langues, puisque vous parlez l'anglais, l'espagnol?
Trop difficile.
Trop difficile.
Non. Mais c'est même trop difficile d'écrire sur d'autres pays. J'ai essayé d'écrire un roman qui jouait à Ibiza et au Guatemala et c'est pas réussi. J'ai remarqué quand j'avais fini, oui, il y avait d'autres problèmes. Par exemple, le grand problème que je savais pas comment ça va se terminer.
Alors ça, c'est un problème de construction, c'est pas un problème de décor.
Mais aussi toutes les descriptions de paysages, de gens, de lieux, se lisaient comme des prospectus de vacances. C'est même après plus de 10 ans dans ces pays, je savais pas ce qui, pour une description, ce qui était important, ce qu'il faut mentionner pour donner cette image. Et ce qu'il ne faut pas mentionner de la Suisse, je sais ça. Je sais ce qui, les 5 mots-clés pour évoquer une image.
Il y a 5 mots-clés ?
Oui, peut-être des fois il y a 8, des fois il y a 1.
Mais il faut toujours des mots-clés pour un paysage. Ça, c'est une technique d'écrivain.
Pour ma technique, oui. Je ne suis pas très doué aux descriptions, par exemple, de sentiments. Mais je pense que j'arrive à mettre les lecteurs dans ce sentiment. Et pour ça, il faut comme des codes. Je pense que ça peut être d'ailleurs un problème avec les chroniques de business class. Peut-être les images du monde de business en France sont un peu différentes qu'en Suisse. Et pour ça, on ne peut pas démarrer les mêmes films dans les têtes des lecteurs.
Là, vous êtes en train de donner des arguments à votre éditrice pour ne pas publier. Attention.
Non, on est des gens raisonnables. On va discuter ça.
Donc, vous avez des... Il y a des codes et vous, votre manière, ce n'est pas d'exprimer les sentiments, mais de faire en sorte que votre lecteur remplisse lui-même les vides, qu'il ressente les choses sans qu'elles soient exprimées directement.
Oui, je peux. Par exemple, là, c'est un peu difficile maintenant, mais je pourrais aussi l'essayer pour évoquer l'image de cette tente, de ce public, de cette atmosphère. Il faut savoir quelles sont les, je dis, quatre ou cinq choses qui sont importantes pour cette image. Et pour savoir ça, c'était par exemple un avantage de vivre ou d'écrire au Guatemala, parce que le cerveau, il oublie des choses. Et moi, je pensais toujours, ce qu'il n'oublie pas, peut-être, c'est l'important. Alors, cette distance géographique et distance de temps aussi aide beaucoup à détecter les cinq choses qui faisaient cette chambre. Alors ça, est-ce ce vert et blanc ou le sofa. Quand j'ai vu le sofa, j'étais un peu inquiet parce que je pensais que je devais me mettre là et vous allez.
J'y ai pensé, mais j'ai renoncé.
Oui, alors savoir ça, un restaurant, le restaurant au Mont Blanc, quelles sont les cinq choses qui font l'image de cette chambre, et aussi les personnages.
Donc, est-ce que vous avez écrit Éléphant ? Vous étiez où ?
Là, j'étais la plupart du temps, j'étais à Zurich. C'est le premier roman que j'ai écrit à Zurich. J'étais un peu inquiet si ça fonctionne d'écrire Zurich en étant à Zurich, parce que c'était pas un reportage. C'est une technique très différente.
La caverne existe ?
Là ?
La caverne, est-ce qu'elle existe ? La cave, la cave.
Ah non, non, c'est pas une cave comme ça, mais il y a une partie de l'autre fleuve de Zurich-Sihl où la route est un peu construite en dessus de la rivière, et là il y a des gens qui vivent là. Ah
oui, des anfractuosités du rocher.
Oui, oui.
Nous arrivons à midi et nous avons encore 15 minutes. Ce n'est pas beaucoup pour le public, mais on va quand même essayer de prendre beaucoup de questions. Qui désire intervenir ? Il y a un micro qui peut vous arriver. Madame, voilà, tout au fond.
J'aime beaucoup votre écriture. J'ai remarqué dans les romans que j'ai lus, vous décrivez avec détail souvent les plats, les repas. Vos personnages connaissent très très bien des recettes où ils sont de fins gourmets. Et je me demandais quelle place la nourriture, les goûts prennent dans votre écriture, dans vos romans. Est-ce que c'est quelque chose de conscient ou vraiment c'est important pour vos romans?
Moi, j'aime beaucoup manger. J'aime aussi faire la cuisine. Ça, ça a quelque chose à faire avec ça. Mais aussi pour un livre, il faut pas seulement des images. Il faut aussi des odeurs. Et ça a quelque chose à faire avec ce que je viens d'expliquer. Je peux pas faire des descriptions d'odeurs. Il y a des auteurs qui peuvent ça, il y a aussi des spécialistes de vin aussi qui peuvent faire ça. Moi, pour moi, c'est très difficile. Alors, pour décrire une odeur de quelque chose qu'on peut manger, on peut très bien expliquer comment ça se fait. Ce sont les choses qu'il faut mentionner pour que les lecteurs commencent à sentir cette odeur. Ça, c'est un truc que j'utilise.
Une autre question ? Madame ? Il y en a deux dames l'une à côté, juste tout près l'une de l'autre, voilà.
J'ai le souvenir d'un livre que j'ai lu il y a quelque temps, malheureusement, évidemment, le titre m'échappe, mais il s'agissait d'une histoire d'impression de faux billets suisses.
Monte Cristo,
merci.
Monte Cristo.
Et je me demandais si, parce que je connais encore mal ce que vous écrivez, votre œuvre, j'aimerais savoir si la critique de la société suisse ou occidentale, de l'économie, de tout ce qu'il peut y avoir de souterrain et que nous, les citoyens lambda, ne soupçonnons pas toujours. J'aimerais savoir si c'est quelque chose d'important pour vous, si c'est une mine pour votre écriture, donc une critique quand même de la société.
Monte Cristo, j'avais commencé avec l'éléphant et tout à coup j'avais cette image des deux billets identique. Et toujours quand je voulais continuer à travailler avec l'éléphant, il y avait ces deux billets. Alors j'avais décidé d'écrire une histoire sur ces deux billets. C'était aussi pas un thème que je cherchais, c'était une image dont je pensais que ça pourrait être, ça pourrait donner une histoire. Alors, si on écrit une histoire sur des billets, on est très vite dans ce monde financier. Et si on décrit ce monde financier d'une manière réalistique, sans vouloir, ça devient critique. Ce sont toujours les histoires qui me mènent. Qui me livre les thèmes, et comme j'ai cette idée de la fiction réaliste, ça devient automatiquement, ça devient critique. Mais je suis pas quelqu'un qui est préoccupé de tout ce qui ne marche pas bien dans la vie et dans le monde, et que je me sens obligé de thématiser ça. C'est seulement, ça me vient naturel, et comme homme privé, j'ai ma vue sur toutes ces choses. Alors peut-être si quelqu'un d'autre écrirait la même histoire, elle serait peut-être moins critique, ou le monde paraîtrait un peu plus sympathique.
Alors, juste avant la question suivante, à propos de cela, dans ce livre, il y a un scientifique qui partait d'un amour authentique de la science et qui vire vers une exploitation cynique de toutes les possibilités de la technologie. Vous ne l'aviez pas prévu ?
Non, je l'ai prévu. Oui,
Au départ,
il fallait que cet animal soit chassé par quelqu'un. Oui.
Donc le scientifique mal intentionné, c'est une réalité que vous connaissez.
C'est une réalité très probable, disons.
Oui, comme tout, comme malheureusement tout dans votre livre. Oui. Madame.
Est-ce que vous pourriez me donner votre définition d'un monsieur ?
Je suis mal dans la définition, mais je vais essayer.
Et j'aimerais encore savoir si dans les SDF que vous avez rencontrés, en avez-vous rencontré?
La définition d'un monsieur, il n'y a pas seulement un genre de monsieur, mais je pense que le respect est quelque chose de très caractéristique d'un monsieur, un respect envers de tout le monde et de tout. Aussi un minimum de forme, de politesse, ça aussi. Un monsieur ne doit pas être riche, il ne doit pas être... il ne doit pas avoir un titre, ça non, mais oui, peut-être une certaine politesse, formalité et respect envers le reste du monde.
Et dans les SDF que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils ont conservé ce respect d'eux-mêmes?
Pas tous, mais beaucoup, beaucoup, oui. Ils ont... oui, je trouve ceux que j'ai connus, ils ont respecté, ils ont conservé ça. Oui.
Merci, madame. Et ensuite, monsieur. Mais d'abord, madame, au premier rang.
Bonjour.
Bonjour.
Je trouve que vous êtes très modeste quand vous dites que vous ne savez pas décrire les odeurs, parce que j'ai le souvenir d'un merveilleux petit roman qui s'appelle Le Cuisinier, qui est un très joli roman d'amour, mais aussi d'amour de la cuisine. Et quand on a fini de lire ce livre, on a très envie de déguster vos repas. Ces repas, pas les vôtres. Mais
merci, oui. Mais c'est aussi la description de comment c'est fait. Hein. Oui.
Pendant que le micro circule, il est question de cuisine aussi dans ce livre. Est-ce que vous êtes végétarien?
Non.
Parce que vous êtes très convaincant. Enfin, votre personnage est très convaincant.
Non, je ne suis pas végétarien. Non. Monsieur? Des fois, j'aimerais l'être, mais...
Moi, monsieur? J'ai encore une question sur les thèmes de votre œuvre. En fait, au début, j'ai eu le sentiment que vous étiez toujours attiré par les problèmes de mémoire et de fonctionnement du cerveau. Et ensuite, vous avez basculé un petit peu sur l'art et la fascination pour l'art, les faux dans l'art. Vous pourriez commenter un petit peu ces thèmes?
Oui, le thème principal, c'est l'identité. C'est la question... Qui sommes-nous et qui pourrions-nous être? Comme l'identité de nous a beaucoup à faire avec la mémoire. Si on perd la mémoire, on perd l'identité. J'avais trois romans qui étaient au début qui avaient ce problème des personnages qui ont changé l'identité. J'ai dit que c'est ma trilogie neurologique. C'était pas très sérieux, comme c'était plutôt une blague. Mais maintenant, on parle de la trilogie neurologique. Mon quatrième roman était Lila Lila, une histoire d'amour aussi. Un jeune homme qui fait qui fait une grande faute à cause de l'amour. Et j'ai pas au début, mais après un certain temps, j'ai vu tomber amoureux, c'est aussi un thème neurologique. Et je pense dans tous mes romans, il y a ce thème d'identité aussi dans le Weinfeld. C'est aussi une histoire sur qui il est et qui il est aussi qu'on voit pas. Au fond, je pense pas que j'ai vraiment changé le thème principal de mes histoires. Là aussi, dans l'éléphant, il y a beaucoup de questions sur l'identité. Même l'éléphant lui-même, c'est le thème de l'identité de cet animal est aussi un thème important.
Merci.
D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Martin Souter. La dernière question, c'est l'éléphant est sorti l'année dernière en Allemagne, en Suisse.
Non, c'est aussi cette année.
C'est traduit presque simultanément.
Oui,
comment vous faites?
Dominique Bourgois, elle sort avec mes livres presque en même temps.
Mais comment est-ce que Olivier peut traduire en même temps que vous écrivez? C'est pas possible.
Oui, c'est pour ça que c'est quelques mois plus tard. J'aimerais beaucoup une fois sortir le même jour en France et en Allemagne. On va essayer ça, Dominique.
Et en anglais, ça se passe comment?
En anglais, ça se passe pas tellement bien. Il y a des livres qui sont sortis maintenant que j'avais écrit, que je me souviens même plus des livres. oui, mais si je peux utiliser cette expression technique, mon deuxième marché plus important, c'est la France et la Suisse romande et le Canada.
Il y a aussi l'Afrique francophone, peut-être.
Bien sûr, oui.
Alors, en anglais, c'est le troisième marché.
Non.
C'est l'espagnol.
Il n'y a même pas. C'est plutôt l'espagnol. L'espagnol, oui.
Alors, ma vraie question, c'était.
Mais dans l'italien, il y a ça aussi. Oui.
Ma vraie question, c'était, il y a un livre qui vient de sortir en allemand, à nouveau, après l'éléphant?
Non, je suis en train de penser.
Ah. Donc, vous avez la fin de l'histoire? Et il faut tirer.
Oui. Non, j'ai même pas l'histoire. J'ai même pas le début de l'histoire. J'avais un début, j'avais commencé et j'avais quelque chose que j'ai rarement, des doutes. Alors je suis allé en vacances avec l'idée de penser si vraiment c'est ça. Je suis venu à la conclusion que non. Et j'ai aussi une nouvelle idée qui me plaît beaucoup, mais c'est encore pas ça. La prochaine chose qui va sortir, c'est un livre et un disque que j'ai fait avec Stefan Eicher qui va sortir au mois d'octobre.
En quoi consiste le livre, le texte?
Le texte, c'est les textes des chansons. Et comme tout le monde nous demande toujours, mais comment trouvez-vous ces idées? La vraie réponse serait aucune idée. Mais alors, cette fois, j'ai écrit. Ce sont 17 chansons et j'ai inventé 17 petites histoires. Comment l'idée est venue. Alors, ça fait un petit livre d'une centaine de pages et l'album et on va même faire une petite tournée au mois de février, mais seulement en Suisse alémanique, parce que ce sont tous des chansons suisse alémanique, bernois.
C'est en dialecte bernois ?
En dialecte bernois, oui.
Mais vous êtes zurichois.
Oui, c'est un problème de notre collaboration. Je dois utiliser des...
Vous avez un traducteur ?
Non, non, ça pas, non, non, mais j'ai un dictionnaire. Oui, c'est pas. Vous avez raison.
Il y a des différences quand même.
Il y a des mots qui n'existent pas en zurichois, et comme moi j'ai écrit des chansons qui riment, c'est un problème. Vous avez raison. Oui.
Alors, on se réjouit de vous lire et de vous entendre, enfin, d'entendre Stefan Eicher chanter vos chansons.
Et j'ai joué un peu l'harmonica.
L'harmonica.
Ouais.
Donc, on pourra vous entendre aussi.
Oui.
Il faudrait qu'on vous invite en Suisse romande pour une date bilingue.
Oui, ça serait intéressant. Oui, oui. Je pense que Stefan, il va venir à Morges après notre tournée au mois de mars.
Ah, mais ce ne sera plus le livre sur les quais.
Oui.
Bon. Je vous remercie beaucoup d'être venu au Livre sur les quais et de
Merci
vous être livré à l'entretien. Tous mes voeux pour la suite, pour la publication en français des chroniques Business Class et surtout pour la prochaine idée qui va naître et que vous allez pousser et tirer et revenir nous enchanter l'année prochaine ou la suivante. Merci.
Merci beaucoup.